La présentation, alors, la mienne s'intitule « Le contrôle du juge administratif de l'état d'urgence, révélateur de la fabrique d'un droit d'exception ». Et en fait, on entend beaucoup parler de l'état d'urgence en tant que droit d'exception, en ce qu'il tendrait à faire quelques entorses aux principes propres à l'état de droit, que sont notamment l'impératif de sécurité juridique et de protection contre l'arbitraire. Et pour contrecarrer ces arguments, les responsables politiques et le gouvernement en tête opposent, pour justifier l'instauration et la prorogation de l'état d'urgence, ils ne cessent de dire que ce régime s'inscrit dans le cadre de l'état de droit en avançant deux raisons. Donc, premièrement, le fait qu'il existe des contrôles de l'état d'urgence, donc le contrôle hiérarchique de l'administration, le contrôle juridictionnel, et qu'il existe également des données qui permettent d'attester de son efficacité. Donc l'objet de cette intervention va être de présenter l'un de ces contrôles, donc qui est le contrôle juridictionnel exercé par le juge administratif, pour analyser les indicateurs d'un droit d'exception. Alors les données que je vais présenter ici, elles sont issues d'une étude qui est menée par le laboratoire auquel j'appartiens, donc qui s'appelle le Centre de Recherche et d'Études sur les Droits Fondamentaux, donc le CREDOF. Et c'est une étude qui est dirigée par la professeure Stéphanie Hennette-Vaucher et menée pour le Défenseur des Droits. Et elle a pour objet d'analyser le contentieux de l'état d'urgence, c'est-à-dire on a pris une période qui va de du 14 novembre 2015, donc la date d'instauration de l'état d'urgence, jusqu'au 31 janvier 2017, qui est une date à laquelle le Conseil d'État a remis un rapport chiffré à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, donc la CNCDH, contenant des éléments détaillés sur l'application de l'état d'urgence. Et pour cette période, on est allé au Conseil d'État pour récupérer tous les jugements rendus par les tribunaux administratifs, les cours administratifs d'appel et le Conseil d'État sur des recours exercés par des personnes ciblées par des mesures prises au titre de l'état d'urgence. Et on a dû aller au Conseil d'État avoir une convention mise à disposition parce que les jugements des tribunaux, qui sont quantitativement les plus importants, ne sont pas disponibles publiquement, notamment pour des raisons d'anonymisation des décisions. En fait, les tribunaux n'ont pas le temps de le faire. Pour cette période, on a relevé 751 décisions de justice, dont 703 jugements de tribunaux administratifs, 25 arrêts de cours administratifs d'appel et 47 arrêts rendus par le Conseil d'État. Donc avant de rentrer dans le détail de notre analyse, je vais rappeler brièvement les mesures les plus emblématiques qui ont été prises au titre de l'état d'urgence. Donc il y a tout d'abord l'assignation à résidence qui permet à l'autorité administrative, donc en l'occurrence le ministère de l'Intérieur ou les préfectures, d'obliger une personne à rester dans sa commune, à planter 3 fois maximum au commissariat et à rester chez elle de 12 heures par nuit. Et si elle ne respecte pas ses prescriptions, elle encourt une peine de prison. Il y en a plus de 400 qui ont été prononcées depuis 2015. La deuxième mesure phare, entre guillemets, c'est la perquisition administrative qui permet aux autorités de police de, sans l'aval d'un juge, d'aller perquisitionner le domicile d'une personne parce que les policiers ont des raisons sérieuses de penser qu'elle représente une menace pour la sécurité ou l'ordre public. Et par la suite, de demander à un juge l'autorisation de perquisitionner les éléments électroniques récupérés lors de la perquisition. Et depuis le début, donc jusqu'au 31 janvier 2017, il y a eu environ 4300 perquisitions qui ont eu lieu. Et sur ces 4300 perquisitions, moins d'une quarantaine ont débouché sur l'ouverture d'une information judiciaire en lien avec une infraction à caractère terroriste. Donc c'est vraiment une proportion minime. Et enfin, la troisième mesure phare, c'est l'interdiction de séjour, qui est plus communément appelée l'interdiction de manifestation, et qui vise à interdire à une personne de se rendre sur les lieux du parcours d'une manifestation parce que les forces de police pensent qu'elle va chercher à entraver leur action. Et selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur à Amnesty International, il y a 639 mesures restreignant le droit de circuler qui ont été prises explicitement pour empêcher les personnes de participer à des manifestations. Donc, Le premier constat qu'on a pu faire en faisant cette étude contentieuse, c'est qu'il y a une très faible proportion de recours qui ont été faits par rapport à la totalité des mesures prises au titre de l'état d'urgence. Donc il y a seulement 10% des mesures qui ont fait l'objet d'un recours contentieux. Et L'un des facteurs explicatifs de cette très faible proportion, c'est l'intervention du juge administratif qui est a posteriori. Parce que dans beaucoup de cas, la mesure elle a déjà cessé de produire ses effets lorsque le juge est saisi de la question. Par exemple, pour les perquisitions administratives, les personnes vont exercer un recours à l'encontre de l'arrêté décidant la perquisition, mais pour en demander l'annulation, et le cas échéant, le juge va la prononcer, mais la perquisition a déjà eu lieu. Donc l'intérêt pour les personnes, c'est éventuellement d'obtenir une réparation financière de la part de l'État, et une condamnation de l'État à ce titre. Et donc ainsi, sur les 4200 perquisitions administratives effectuées au 12 janvier, il y a seulement 1,8% qui ont fait l'objet d'un recours contentieux. Donc on retrouve le même problème avec les interdictions de manifestation, puisque bien souvent, quand elles font l'objet d'un recours, les mesures ont déjà cessé de produire leurs effets parce que les personnes se voient notifier ces arrêtés d'interdiction de séjour, soit la veille, soit le jour même de la manifestation, donc le temps que le tribunal soit saisi, c'est trop tard. Et dans une moindre mesure également pour les assignations à résidence, puisque c'est un peu particulier en fait, il y a beaucoup de cas où le ministère de l'Intérieur sait qu'un recours a été fait à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence, et donc il va abroger l'arrêté d'assignation à résidence juste avant l'audience du tribunal administratif. Et donc du coup le juge il va pas évaluer le bien fondé ou non de cette mesure, il va simplement dire qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ce recours puisque la mesure a cessé de produire ses effets. Donc finalement déjà pour une grande partie des mesures, les garanties des libertés des personnes ciblées sont quasi inexistantes puisque le contrôle juridictionnel est après coup. Donc le second aspect qui interpelle et qui a fait l'objet de plusieurs dénonciations et qui est très connu, c'est l'usage détourné de l'état d'urgence, donc à d'autres fins que la prévention d'actes terroristes, puisque le texte de loi de 55 qui instaure l'état d'urgence cible les personnes dont le comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public, donc ce qui est un prisme assez large. Et ce détournement il s'est manifesté dans un premier temps lors de la COP21, donc la conférence sur le climat qui s'est tenue à Paris juste après les attentats du Bataclan, et dans le cadre de laquelle plusieurs personnes ont été assignées à résidence pour les empêcher de participer aux manifestations contre la tenue de la COP21. Et ces personnes ont exercé un recours qui allait jusque devant le Conseil d'État, et ce dernier a avalisé les pouvoirs exorbitants accordés au titre de l'état d'urgence. Enfin, il a considéré que l'esprit de la loi n'interdisait pas à l'administration d'utiliser l'état d'urgence à d'autres fins que de prévenir des actes terroristes. Et donc ce constat il a été dénoncé par la mission de contrôle parlementaire menée par les députés Poisson et Rimbourg, qui préconisait le recentrage de l'état d'urgence à la lutte exclusive contre le terrorisme. Et la CNCDH, quant à elle, a également dénoncé le fait que l'administration puisse définir l'étendue de l'usage de l'état d'urgence et des droits et libertés reconnus aux citoyens. L'intérêt de cet arrêt, donc il s'appelle l'arrêt d'Aumanjou, il réside aussi dans le raisonnement qui a été retenu par le Conseil d'État pour justifier qu'une personne soit assignée à résidence ou interdite de séjour. En fait, c'est celui de la nécessité opérationnelle. En gros, ça consiste à dire que, comme les forces de l'ordre sont particulièrement mobilisées pour lutter contre le terrorisme, et paraît au péril imminent que représentent les attentats, mieux vaut qu'ils se concentrent sur ces préventions-là plutôt que sur la surveillance d'individus dans des manifestations. Et on a retrouvé cet argument-là qui a été appliqué par les tribunaux administratifs dans bien d'autres cas, donc dans des interdictions de séjour, mais également dans l'interdiction d'organisation de manifestations, puisque l'argument simple du ministère de l'Intérieur, c'est de dire il n'y a pas assez de forces de l'ordre, les forces de l'ordre n'ont pas que ça à faire, en gros. Et le problème suscité par cette logique, c'est que il y a une jurisprudence qui est bien établie par le Conseil d'État depuis 1933, donc c'est l'arrêt Benjamin qui est l'un des plus connus qu'on apprend aux étudiants en droit, par lequel le juge administratif a expliqué que quand une liberté individuelle est menacée, le juge administratif doit procéder à un triple contrôle. On appelle ça le contrôle de proportionnalité. Donc il doit d'abord évaluer la nécessité de la mesure, la proportionnalité de la mesure et son caractère adapté. Et le Conseil d'État est venu rappeler cette logique dans le cadre de l'état d'urgence. Donc là, face à ce type de situation-là, on aurait pu s'attendre à ce que, à minima, Il y a une évaluation, par exemple, des forces de police nécessaires pour, dans le cas où ces personnes pourraient manifester, ben, combien de forces de police sont nécessaires pour les encadrer, les surveiller, afin qu'il n'y ait pas débordement, par exemple. Mais cette évaluation n'a pas eu lieu, et on s'est rendu compte que, de manière générale, ce triple test, donc, qui est censé garantir les libertés individuelles, il se retrouve absolument pas. En fait, on observe plutôt une forme de mutation du contrôle juridictionnel de l'état d'urgence, des actes de l'administration, qui se cantonnent plutôt au contrôle des faits allégués par l'administration, plutôt que celui d'une éventuelle atteinte au droit à la liberté de la personne. Parce que c'est rarement au motif qu'une atteinte porterait une atteinte disproportionnée à un droit fondamental que les censures sont prononcées, mais davantage parce que les faits sur lesquels s'appuie l'administration sont insuffisamment étayés. Et donc cette mutation, elle est préjudiciable en termes de garantie juridique, et là, à cet égard, on voit vraiment qu'il y a une forme d'exception qui se développe, et qui est directement due au mode de preuve apporté par l'administration pour prouver ces mesures. Et donc ce mode de preuve qui a fait beaucoup parler de lui, c'est les notes blanches. Et donc les notes blanches des services de renseignement, c'est quelque chose qui a été ressuscité par l'état d'urgence, qui avait été supprimé par Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'Intérieur en 2002. Et c'est une fiche non datée et non signée, pour protéger les fonctionnaires qui les rédigent, et qui contiennent des extraits de rapports de police ou de renseignements au sujet du comportement d'un individu sans précision de leur source, et produites par l'administration au soutien d'une mesure d'assignation à résidence, une perquisition, une interdiction de séjour. Alors là, j'en ai ramené une pour vous donner un exemple. Ça, c'est une note blanche du service d'enseignement qui concerne une interdiction pour motiver une interdiction de séjour, donc une interdiction de manifestation, de militants qui a eu lieu à Rennes. Et donc là, vous voyez cette note blanche, donc il y a trois paragraphes, et un paragraphe correspond à une personne. Donc c'est assez maigre, hein. En l'occurrence, il s'agit de dire que cette personne a été interpellée lors de telle manifestation ou telle violence ont été observées, sans qu'il y ait un lien avéré entre la personne et les violences constatées. Et donc ça, c'est pour un exemple vraiment de note blanche peu circonstanciée. Il y en a d'autres qui le sont beaucoup plus, avec des prises de photos, beaucoup plus de détails. Donc déjà, de base, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une variabilité dans le degré de détail de ce mode de preuve. Et pour encadrer son usage, le Conseil d'État, il est venu préciser que les juges, lorsqu'ils exercent leur contrôle, ils doivent prendre en compte uniquement les éléments suffisamment circonstanciés contenus dans ces notes blanches, qui permettraient de déduire que la personne représente une menace à l'ordre public. Donc on a essayé de voir un peu comment, concrètement, était appliqué ce contrôle par le juge administratif, et en fait, notre analyse, elle permet pas de connaître véritablement quel est le standard de précision et de preuve exigé par le juge pour admettre que ces éléments puissent valablement fonder ses décisions, ni le standard qui est exigé par les requérants pour pouvoir les réfuter. Donc je vais prendre quelques exemples pour un peu illustrer ce propos. Alors le premier, c'est un cas qui a été assez médiatisé, et qui concerne une personne qui a été assignée à résidence juste après les attentats du Bataclan pour des faits qui remontaient à mai 2015, qui avait été aperçu, donc il est assigné à résidence, et il exerce un recours devant le tribunal, et là, la note blanche produite par les services de renseignement, elle indique que ce monsieur a été vu en mai 2015 aux abords du domicile d'un journaliste de Charlie Hebdo, en train de prendre des photos, donc un journaliste qui était sous protection policière depuis les attentats de janvier. Et donc cet individu a été aperçu en train de prendre des photos du dispositif policier, et en plus il a été mis en cause, il était suspecté d'être impliqué dans un trafic de voitures finançant une filière djihadiste en 2008. Donc sur la base de ces éléments, le tribunal administratif estime la mesure d'assignation à résidence justifiée. Donc l'individu exerce un appel et prend le temps de rassembler davantage de preuves, et le Conseil d'État finit par annuler l'arrêté d'assignation à résidence, parce que en fait il a réussi à l'individu a prouvé que s'il était là ce jour-là, en fait c'est parce que sa mère habite dans le même quartier que le journaliste. Et en fait il prenait pas de photos du dispositif policier, mais il avait un casque de scooter, et il était au téléphone en haut-parleur avec son épouse, donc il a pu prouver au regard des relevés téléphoniques. Et lorsque, concernant l'affaire de trafic de voitures, en fait, il était seulement auditionné en tant que témoin, et lui-même s'en disait victime. Donc, Donc ça, c'est pour ce premier exemple de variation d'appréciation d'un tribunal à un autre. Et je vais en prendre deux autres pour illustrer que cette variation, elle peut varier alors sur des faits qui sont similaires. Donc je vais prendre deux cas d'assignation à résidence. Alors le premier concerne, donc je cite la note blanche, hein, une personne qui pratique un islam rigoriste et fréquente une mosquée dont le responsable est enclin à accueillir plusieurs jeunes salafistes. Il compte parmi son tissu relationnel des individus connus de services partenaires, évoluant dans la mouvance de l'islam radical et susceptibles de partir sur zone. Il désire quitter la France pour aller vivre dans un pays musulman. Donc là, le tribunal il a toutefois considéré que ces éléments étaient insuffisamment circonstanciés pour caractériser une activité d'intéressé s'avérant dangereuse pour la sécurité de l'ordre public. Alors même que quand on lit l'arrêt, la personne n'a pas l'impression qu'elle s'est beaucoup défendue. Quoi. C'est le juge qui a estimé ça par lui-même. Et dans le second exemple, la personne est aussi assignée à résidence, donc elle a été refoulée par les autorités turques car soupçonnée de vouloir se rendre en zone irako-syrienne pour faire le djihad et qu'elle entretient des liens avec une famille connue pour son fondamentalisme religieux ainsi qu'avec un imam radical tunisien. Donc là on voit que la note blanche elle est aussi détaillée que celle de l'affaire précédente, mais le juge estime cette fois qu'il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement du requérant constitue une menace pour la sécurité et l'ordre public. Et il valide l'assignation à résidence. Donc on voit bien qu'il y a une variation de l'appréciation de la menace d'un juge à l'autre. Les faits étant similaires, donc une potentielle intention de partir faire le djihad et de potentiels liens avec l'islam radical, mais l'issue des recours différentes. Et enfin, pour ce qui est la caractérisation, l'identification des moyens pertinents pour se défendre, je vais prendre l'exemple d'une personne qui est, encore une fois, assignée à résidence. Et qui sont, parce que selon les deux notes blanches, elle aurait souhaité se rendre, elle aurait souhaité rejoindre son frère à la tête d'un groupe de combattants en Syrie afin de le conseiller dans la mise en place d'une banque islamique. Et donc pour contester ces éléments, le requérant il produit en défense plusieurs documents qui prouvent son intention de rester en France, tels que des attestations de proches, de formation professionnelle, et un certificat médical de son psychiatre qui indique que la personne déjà hospitalisée pour un épisode, donc je cite, un épisode délirant dans un contexte de troubles bipolaires, il bénéficie d'un traitement ayant pour effet une altération de la motivation associée à un ralentissement psychomoteur manifeste, incompatible avec un processus de radicalisation. Et là, en fait, les notes blanches, elles ont été considérées comme suffisamment circonstanciées par le tribunal, et le juge des référés a vu dans l'assignation à résidence une juste conciliation des intérêts en présence. Donc là, on voit bien, avec ces quelques exemples, que le contrôle juridictionnel de la liberté d'un côté et de la protection et de l'ordre de sécurité publique de l'autre est fluctuant, notamment, et surtout en raison du mode de preuve dégradé que constituent ces notes blanches. Surtout, le juge administratif, il prononce très rarement des compléments d'instruction. Il demande très rarement à l'administration de apporter plus d'éléments pour l'étayer, ou à contrario, la même chose pour les requérants, quoi, pour qu'ils aient plus de temps pour se défendre. Donc en fait, le juge, il apparaît assez peu équipé, et très sensible à l'utilisation de ces notes blanches, parce qu'on a constaté que sur l'ensemble de ces recours, le taux d'annulation global est assez faible, de l'ordre de 19,7%, et c'est un pourcentage qui est d'autant plus à relativiser que bien souvent, les annulations et les abrogations, elles sont seulement partielles. C'est-à-dire que c'est pas une annulation de l'assignation à résidence, mais c'est une annulation partielle pour aménager, par exemple, les modalités d'assignation ou de pointage au commissariat qui ne permettent pas à la personne d'aller chercher ses enfants à l'école ou de travailler. Donc voilà pour cet exposé du contrôle juridictionnel qui est brandi par les autorités publiques pour justifier qu'il y a un contrôle de l'état d'urgence effectif. Et de l'autre côté, le second argument, qui est celui de données qui attestent de son efficacité, on s'est rendu compte que c'est assez difficile d'établir des données convergentes et fiables sur l'application de l'état d'urgence. On a pu le constater avec les données qui ont été présentées par Jean-Marc Sauvé, donc, qui est le vice-président du Conseil d'État, dans le bilan de l'année 2016 de la juridiction administrative. Donc selon lui, je le cite, hein, quelques statistiques donnent la mesure de l'efficacité du contrôle opéré par le juge administratif. plus de 30% des assignations à résidence prises au titre de l'état d'urgence depuis le 14 novembre 2015 et contestées devant le juge des référés des tribunaux administratifs ont cessé d'être appliquées, soit qu'elles aient été suspendues en tout ou partie par ce juge, soit qu'elles aient été préventivement abrogées avant ou après l'audience devant le juge par le ministère de l'Intérieur. Sauf que ce pourcentage de 30%, nous, on ne le retrouve pas dans notre étude. Et le taux est plutôt de l'ordre de 18%, donc ce qui constitue quand même une légère différence. Donc pour conclure sur un dernier aspect, on s'aperçoit que l'application de l'état d'urgence dans la durée tend à laisser émerger une forme de police prédictive, puisque les policiers et les préfets qui prennent des mesures attentatoires aux libertés ont tendance à s'appuyer non sur des faits mais sur des risques virtuels de la commission d'infraction qui sont fondés sur des éléments aussi flous que le comportement de la personne ou son tissu relationnel. Et cette évolution associée au manque d'effectivité du contrôle juridictionnel du juge administratif, elle tend à inverser le paradigme jurisprudentiel de l'arrêt Benjamin, faisant de la restriction de police le principe et la liberté l'exception. Voilà. Je vous remercie.